On prend le temps cet été, on se pose. On va parler tourisme, animation et culture dans l'estival du local. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission hebdomadaire de l'été sur l'autre radio, l'estival du local. En plein cœur de l'été, on vous donne plein de bonnes idées pour les vacances des grands et des petits ici en Mayenne. Et ce jeudi, on voyage. Voyage dans le temps avec l'exposition autour des fouilles archéologiques à Jublain et une question, comment y vivaient les Romains ? Voyage artistique, assuré grâce à la prochaine édition du Chaînon Manquant au mois de septembre. La billetterie est déjà ouverte. Et voyage sur l'eau, sensation de glisse garantie avec le ski nautique. Mais pour commencer, on s'envole vers le nord du département au musée archéologique de Jublain. Capitale du département au temps des Romains, c'est-à-dire entre la fin du 1er siècle après Jésus-Christ et le milieu du 2e siècle. En plus du site à visiter, vous pourrez vous mettre dans la peau d'un archéologue pour mieux comprendre comment il travaille sur place. Et ce grâce à l'exposition « Vous cherchez des fouilles ?» visible tout l'été. Petite visite guidée avec la responsable du musée.
Alice Arnaud, chef du service des musées au conseil départemental de la Mayenne. Et responsable en particulier du musée archéologique de Jublain.
Musée archéologique de Jublain, où on se trouve actuellement ? Là, on est vraiment dans la première pièce d'exposition.
Oui, en fait, l'exposition temporaire 2021 s'ouvre à la fin du parcours permanent du musée. Mais afin d'introduire un peu l'idée qu'il faudra prolonger la visite des collections permanentes par celle de l'expo temporaire, on se trouve devant un grand dessin qui invite à la visite d'un chantier traditionnellement interdit au public, mais là on ouvre grand les portes pour 3 mois. Juste un petit mot sur le titre de l'exposition. Donc vous cherchez des fouilles, je ne sais pas si ça vous a interpellé. Nous c'est peut-être comme ça qu'on commencerait avec un visiteur. Qu'est-ce que ça vous évoque comme formule, vous cherchez des fouilles ? Alors c'est un petit clin d'œil finalement aux curieux des chantiers archéologiques parce que c'est une question à la formulation un peu étrange mais qui en fait est effectivement posée aux archéologues régulièrement. Un peu un mélange en vous cherchez des choses, des vestiges et vous faites des fouilles. Mais du coup nous avons décidé de retourner la question aux visiteurs. Si vous cherchez des fouilles, c'est à Jublain que vous pouvez en trouver. Et ça donne le ton en fait de cette exposition qui fonctionne par un jeu de questions. Chaque station est une question qui reprend des interrogations un peu génériques des visiteurs, un peu habituelles, à la fois sur l'Antiquité, sur Jublain, sur les Gallo-Romains. Donc tout le principe est dans le titre de l'exposition. Le visiteur pose une question et on essaye d'y répondre. On se tourne vers les premiers panneaux, donc à chaque panneau correspond une question, ainsi que je l'expliquais tout à l'heure. Et en fait, même si on a évidemment imaginé, nous, un parcours type, les visiteurs sont libres et en principe, la disposition permet de ressentir cette liberté de naviguer d'une question à l'autre. Alors, on a quand même voulu commencer par le commencement, avec la question « Fouille-t-on toujours à Jublain ?» Ceux qui nous connaissent savent que depuis plusieurs années, plusieurs décennies maintenant, il y a toujours de la recherche programmée, active chaque année à Jublain. Mais l'histoire de l'archéologie a commencé il y a bien longtemps, en 1776 exactement, avec la découverte d'une mosaïque. Donc pour entamer le propos sur l'archéologie et ses méthodes, on remonte à cette première découverte et aujourd'hui le musée possède encore 2 fragments de l'importante mosaïque qui avait été découverte à l'époque et qui a permis aux érudits, aux savants de s'interroger sur le pourquoi du surgissement d'une telle mosaïque, signe de richesse à Jublain, et d'identifier en fait le site avec l'ancienne capitale ou chef-lieu de territoire du peuple diablinte à l'époque gallo-romaine. On a souhaité répondre aussi un peu aux questions vraiment très concrètes, très techniques des visiteurs. Par exemple, devant ce panneau-là, on s'interroge sur les outils de l'archéologue et la méthode de fouille. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'images évocatrices de l'archéologie. Est-ce qu'on fouille en pinceau ? Est-ce qu'on fouille à la petite cuillère ? Donc oui et non, pas seulement. Les principaux outils sont peut-être ce qu'on imagine moins facilement. La pelle mécanique d'abord, pour la première couche de décapage. La truelle ensuite, et un outil fin de fouille, mais vraiment emblématique du métier. On a une vitrine qui présente aussi, pour que ça soit plus parlant, un certain nombre d'outils. Donc je pense que vous voyez là une pelle, une pioche telle qu'on peut en avoir dans son jardin, un seau encore maculé de terre. Et puis surtout, bien en évidence dans la vitrine, vous distinguez un classeur. L'essence de l'archéologie est dans l'enregistrement des données qu'on collecte. Et donc, couche par couche, on enregistre ce qu'on observe dans des fiches d'unités stratigraphiques. Alors la question vraiment récurrente, on va aller se placer devant le panneau en question, c'est celle du trésor. À nouveau, on retombe un peu dans le fantasme. Une des questions les plus récurrentes, c'est qu'est-ce que vous avez trouvé ? Est-ce que vous avez trouvé un trésor ? Donc là, on revient sur l'idée que, à la fois, l'archéologie ne cherche pas de trésor à proprement parler, à la fois, elle ne fait qu'en trouver, sans cesse, puisque, aux yeux de l'archéologue, le trésor, c'est l'objet qui est trouvé dans son contexte. Il est spatialisé, localisé, et il est daté aussi. Sans ces informations, l'objet, aussi beau soit-il, est un peu lacunaire. Il ne peut pas être un trésor si nous n'avons rien à en dire. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi de faire un petit florilège de trésor selon un archéologue, et vous voyez que...
On ne voit pas de pièces d'or, hein, par exemple.
On ne voit pas de pièces d'or. Vous remarquerez quand même qu'on a cédé et on présente une bague à monture en or avec une intaille, donc une pierre incisée. Donc là, qu'on peut quand même assimiler à la notion commune de ce qu'est un trésor. Mais cette bague en or côtoie des clous de construction qui sont encore en plus dans leur enveloppe de métal corrodé, donc qui ressemblent à peine encore à un clou. Après, vous avez des objets qui peuvent être émouvants parce qu'ils sont signes du passage d'une vie. On se trouve devant des éléments de construction en briques qui gardent l'empreinte de petits animaux. On voit des pattes de chat, une patte de chien. Vous pouvez aussi, je pense, vous amuser devant la variété des formats de clés en fer. Et ça, ce sont des objets très quotidiens encore aujourd'hui. Ça nous en dit long sur la vie des Gallo-Romains à Jubelin. Ils avaient des maisons qu'ils ouvraient à clé, ils avaient des coffrets, ils avaient des biens. Et on en a un petit aperçu. Alors l'exposition a aussi eu à cœur de répondre à la question de où vraiment habitaient, dans quelle maison habitaient les Romains. Et en vitrine, on a quelques morceaux choisis de vestiges de décors intérieurs. Donc ce sont des enduits peints, lui-même recouvert d'une peinture avec des pigments dont on a conservé quelques boules bleues. L'archéologue a eu en 2014 et 2015 la surprise de découvrir des fragments d'un motif de cheval ailé. Donc les Mayennais reconnaîtront une allusion au Pégase qui est aujourd'hui symbole de notre département. Donc c'est un clin d'œil de l'histoire hein, parce que vraiment c'est tout à fait fortuit. On a quand même très peu de motifs figurés sur les enduits peints découverts à Jubelin. Donc voilà, c'était la découverte aussi vraiment amusante de ces dernières années et sont aussi le fruit d'un travail d'une qualité assez importante. Donc ça en dit long aussi sur le statut des personnes qui habitaient cette maison, donc qui est fouillée au cœur de la ville antique. On se trouvait dans une domus, donc maison urbaine d'un certain standing, avec des propriétaires désireux d'être dans un bel environnement et puis de démontrer aussi qu'ils avaient les moyens de s'offrir ce type de décor.
Là, cette exposition, elle est vraiment accessible à tous?
Alors oui, vraiment, je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Le ton se veut ludique, relativement léger, mais le contenu y est. Je pense que les enfants curieux de 5 à 12 ans auront quelques réponses à leurs questions. Mais par exemple sur les techniques de l'archéologie, sur les perspectives d'avenir de fouilles, les images de prospection au géoradar qui sortent et qui sont des technologies de pointe, les plus âgés trouveront leur compte aussi. On s'adresse largement à tous les curieux de l'histoire et de la vie à Jubelin.
Et si vous en faites partie, vous pourrez découvrir l'exposition jusqu'au 3 octobre. Elle est comprise dans le ticket d'entrée du musée. Ne manquez pas non plus le Cluedo géant tous les lundis et un atelier initiation archéologie tous les mardis après-midi. Les deux sont sur réservation. Et désormais, on se projette dans le temps. Dans un mois et demi, du 14 au 19 septembre, le festival de Chaînon Manquant soufflera ses 30 bougies. Ce sera à Laval. Le festival d'art vivant défricheur de nouveaux talents a réussi à être maintenu l'an dernier et se prépare à une belle édition 2021. Avec de nombreux Mayennais programmés, un peu plus que les années précédentes, on fait un tour d'horizon de cette programmation.
Je suis Kevin Douvillez, co-directeur du Chaînon Manquant.
Le Chaînon Manquant, qui justement fête sa 30e édition cette année, une 10e édition à Laval. Comment justement vous allez fêter cet événement ?
Donc déjà, cette chance-là de pouvoir envisager le festival. Et pour ces 30 ans, on a décidé d'accueillir des formes qu'on n'accueille pas. Généralement, des formes de rue, d'envergure, notamment Mo et le Ruban Rouge qu'on accueille grâce et avec le Théâtre de Laval, qui sont une compagnie L'Homme Debout, qui dont la spécialité est de présenter des géants en osier, de quasiment une petite dizaine de mètres. On aura aussi la chance d'accueillir avec la ville de Changé et grâce à la ville de Changé, la compagnie Opus, est un vrai faux vide-grenier complètement délirant, à Changé le vendredi et le samedi soir, ou encore Cheval de la compagnie Paris-Bénarès, une cheval monumental qui arpentera, déambulera dans les rues de Laval le samedi et le dimanche.
On va rappeler les dates, puisque là on a parlé des jours, mais donc les dates, ce sera du 14 au 19 septembre. Est-ce qu'on peut rappeler le principe du Chaînon Manquant, l'ADN en tout cas, c'est vraiment d'avoir des spectacles pas encore connus qui peuvent être programmés dans les salles la saison culturelle qui vient ou celle qui va suivre.
Complètement. L'origine du Chaînon, c'est un moment de partage, un moment de repérage et de partage, parce que le Chaînon, c'est certes le Chaînon Manquant, le festival, mais c'est aussi un réseau. Le festival appartient en fait à 306 salles de spectacle qui sont dispersés partout en France et dont leur souhait à eux, c'est de repérer des projets sur les territoires, de pouvoir les voir. Et c'est comme ça que le festival est né, pour exposer ces projets-là au regard des uns et des autres et ensuite de pouvoir circuler au sein du réseau sur la saison suivante. Grosso modo, on va avoir là entre 350 et 400 programmateurs, programmatrices qui vont venir sur le festival faire leur marché. C'est pas très joli comme mot, mais en même temps, c'est la réalité. Ils vont voir 5, 6, 7 spectacles par jour et peut-être en acheter 3, 4, 5, 10, parfois certains en achètent 20.
C'est un rendez-vous très attendu des programmateurs, puisque après Avignon, c'est peut-être le deuxième festival ou le deuxième événement, en tout cas, où justement les programmateurs peuvent voir une diversité aussi de spectacles.
Effectivement, c'est le seul événement en France maintenant qui permet de voir un jeune public le matin enchaîner avec un spectacle de danse, puis voir du théâtre, et puis enchaîner avec de la musique, voilà, trois concerts, et ensuite avoir un spectacle d'humour. C'est le seul festival qui, avec le Festival d'Avignon, mais pas dans les mêmes proportions et pas de la même manière, propose cette diversité. Et surtout, c'est devenu au fil des années, notamment depuis 5-6 ans, deuxième rendez-vous après Avignon de repérage artistique pour les salles pluridisciplinaires. Voilà, c'est avec, je le disais tout à l'heure, entre 350 et 400 programmateurs, programmatrices qui viennent, effectivement, on est loin devant la plupart des événements.
Donc ça veut dire que même pour les artistes qui vont se produire sur scène, c'est là pour le coup une très belle mise en lumière puisqu'ils peuvent être vus par voilà, autant de programmateurs et autant d'opportunités ensuite de pouvoir jouer devant un public.
Complètement, c'est l'enjeu. Alors c'est pour ça qu'on fait très attention à la sélection et que ces artistes qui sont choisis ont été vus par différents regards de programmateurs et programmatrices. En fait, la moitié de la programmation est quand même issue d'une sélection faite par les adhérents eux-mêmes sur les territoires. Bien souvent sur des projets qui, comme c'est le cas en Mayenne, n'ont pas la possibilité de dépasser la frontière de leur département, de leur région, et grâce au Chaînon vont peut-être avoir une visibilité et une circulation nationale.
C'est vrai qu'on peut se demander justement comment est faite cette sélection, puisqu'on l'a dit, il y a beaucoup de disciplines, hein, que ce soit du théâtre, de la musique, des arts de rue, de l'humour. Comment est-ce que vous choisissez parmi tout ça pour avoir 70 spectacles à la fin ?
En fait, on est 300 à choisir. Donc c'est pour ça, c'est plus dur et plus facile. Mais on a mis en place un système qui s'appuie sur ce qu'on appelle les régions en scène, qui sont des petits chaînons qui ont lieu de début janvier jusqu'à début avril. Il y en a 11 au total. Ce sont des journées de visionnage professionnel, c'est comme ça qu'on appelle, mais qui présente à des professionnels entre 12 et 15 spectacles sur 2 ou 3 jours. Cette année, elles ont eu lieu malgré le confinement, parce que les représentations professionnelles, il fallait bien qu'on travaille, il fallait bien que les artistes puissent montrer leur travail, parce que sinon ils n'étaient pas programmés l'année suivante. Donc elles ont eu lieu, il y en a eu 11 au total. Moi j'ai fait le tour de ces 11 régions en scène. Au total, c'est 107 projets et on en rapporte 36 au Chaînon. Et ces projets, ils ont déjà été vus sur le territoire par 2, 3, 4 programmateurs, enfin adhérents en tout cas, et puis ensuite ils ont été vus au moment du Région en scène et puis on s'est tous retrouvés en réunion après pour choisir ensemble les 1, 2 ou 3 projets qui vont représenter la région. Ce qui amène à avoir effectivement ce résultat, puisque sur les 70 spectacles qu'on présentait, ça génère aux alentours de 1500 représentations. Mais je crois qu'on serait sur une douzaine de dates en fait en moyenne, quelque chose comme ça. Dans la réalité, c'est pas le cas. Hein. Il y en a qui repartent avec 40, 50, c'est un gros carton. Certains, plus rarement, avec zéro date. Mais ça arrive quasiment plus maintenant.
Dans cette programmation, justement, notamment dans les régions en scène, j'imagine qu'il y a aussi des artistes mayennais qui sont issus du département et qui, là, auront la chance d'être présenté, on va dire, devant des programmateurs de toute la France.
Complètement. Et puis comme c'est les 10 ans aussi à Laval, on a voulu marquer le coup et sans trop se forcer, parce que la qualité est vraiment là. On a présenté, enfin on est allé chercher en fait des projets peut-être un peu plus que d'habitude. Il y a 6 projets quand même mayennais qui seront présentés. Ça va des gens les plus identifiés comme David Rouard par exemple, chorégraphe qu'on ne présente plus vraiment, en tout cas dans les milieux spécialisés, qu'on ne présente plus vraiment ici, une vraie renommée nationale. Ou des gens comme Rookin par exemple, qui est le groupe qui est en train un peu de monter et qui a joué récemment au 6 par 4. Ou Brasier, Nicolas Boinard d'Archimède, que tout le monde quasiment connaît ici. Mais bon, c'est aussi le premier spectacle des Écorchés, par exemple, de l'Anima Compagnie, et des projets plus confidentiels, dont c'est le début, par exemple, Orly. Et puis plus largement, on va avoir accueilli une bonne quinzaine de projets des Pays de la Loire. Là aussi, on voulait marquer le coup et bien montrer qu'on était sur ce territoire et qu'on était bien sur ce territoire.
Donc là, on l'a dit, plus de 70 spectacles, plus d'une centaine de représentations qui seront toutes accessibles au public.
Ah, complètement, c'est le principe. Hein. Nous, on essaye, on a toujours l'impression que le Chaînon, c'est une rencontre professionnelle. En fait, à chaque fois, nous, dans toutes les salles, on essaye d'avoir moitié public, moitié pro. Parce que c'est la meilleure manière, en fait, d'accueillir des spectacles, de les mettre, en fait, à l'aise. Parce que ces spectacles s'adressent essentiellement à un public. Pas que à des professionnels qui peuvent avoir un regard un peu blasé, un peu. Les notes de voir vraiment de les mettre dans les bonnes conditions et puis surtout qu'il y a une envie vraiment profonde des Lavallois, des Mayennais en fait, maintenant de participer au festival. L'année dernière, on a terminé quand même le festival à 94% de remplissage. On était à 91 en 2019.
Là aussi, ce seront les mêmes lieux qui seront investis que les années précédentes ?
Oui, alors avec quelques petites variantes. Alors cette année, on n'aura pas la salle polyvalente où on avait deux espaces de représentation puisque la salle polyvalente va rester un centre de vaccination. Donc on va adapter la SCOMAM, par exemple la salle d'expo de la SCOMAM et en faire vraiment un espace de représentation. Pour la deuxième année consécutive, en fait, on explore toujours l'auditorium de l'Immaculée Conception. On est présent quand même dans 3 lycées, hein, à la chapelle du lycée Ambroise Paré et puis au théâtre du lycée Douanier-Rousseau. On aime bien, c'est vrai qu'ils nous ouvrent ses portes et je les remercie parce que c'est un vrai bonheur de pouvoir évoluer dans ces lieux-là que les Lavallois n'ont pas l'occasion de voir en fait le reste de l'année, la chapelle peut-être un peu plus, mais c'est vraiment des superbes lieux. Et ensuite, bon, on va retrouver le théâtre, l'avant-scène. Pour la première année, effectivement, on va aller faire un petit tour du côté de Saint-Berthevin, au Reflet, superbe nouvelle salle qui a été créée il y a 2 ans. On a aussi cet événement-là, le prologue du Chaînon. Si vous êtes un fondu vraiment des spectacles et que vous avez envie de vous échauffer, on a mis en place depuis maintenant 6 ans le prologue du Chaînon, un événement qui a lieu le week-end avant le Chaînon et qui présente 5 spectacles dans l'agglomération et voire même dans tout le département de la Mayenne. Donc tout un parcours sur le vendredi samedi qui permet d'aller voir du cirque, de la musique, de la chanson, du théâtre musical. Et donc ce passe propose aussi des repas, des visites. Voilà. On y retrouve des projets qui étaient au Chaînon l'année précédente. En fait, c'est comme si ils démarraient leur tournée sur le réseau Chaînon un an plus tard après leur passage à Laval. Et ils recommencent à Laval pour enchaîner ensuite 10, 20, 30 ou 40 dates.
Vu le contexte, on le sait, hein, depuis un an et demi, c'est très compliqué de voir des spectacles. Là, ça fait du bien aussi ça, voilà, d'avoir autant de dates, de propositions différentes aussi.
Oui, ben, on le faisait avant, donc ça a plus de sens maintenant. C'est surtout que les artistes n'ont pas eu l'occasion vraiment de montrer leur spectacle. Donc pour eux, c'est juste vital, crucial. On s'est rendu compte de la nécessité de pouvoir vraiment se réunir et d'être en réseau pour pouvoir faire avancer la machine, de faire avancer les spectacles, les faire exister. On a un engouement professionnel autour du Chaînon qui vraiment s'est développé durant le confinement, enfin durant cette crise, parce que les programmateurs et programmatrices étaient démunis face à ça. Comment on peut repérer quand on reçoit, vous savez, ils reçoivent dans les 200-300 mails par jour. C'est impossible en fait à éplucher, on ne sait plus, il y a tellement de spectacles partout que en fait on est noyé sous la masse. Il y a vraiment besoin d'un système qui oriente vers les bons projets.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
La billetterie pour le Chaînon manquant 2021 est déjà ouverte à l'office de tourisme de Laval ou sur le site internet du festival.
Après cette pause détente assurée par l'impératrice avec leur titre Vanille Fraise, retour au sport. On chausse les skis et on glisse sur la Mayenne. C'est ce que propose depuis de nombreuses années le club de ski nautique de Château-Gontier, près de l'écluse de Mirevaux. Un sport accessible à tous, contrairement aux idées reçues, et que j'ai pu moi-même tester, oui, pour une première fois, bien coaché par David le moniteur. La combinaison est mise, c'est bon, les skis sont chaussés, et bien ça y est, le bateau peut partir.
T'inquiète pas, tu vas voir, on va aller tout doucement au départ. Faut vraiment prendre son temps. Plus tu prends ton temps et plus c'est facile.
C'est normal, tu t'attrapes la barre. Là, tu vas te déplacer sur la gauche. Tu mets tes mains entre les deux câbles noirs. Passe les skis derrière. Voilà, super.
Donc là, tu te rappelles, viens placer tes pouces sous la barre. Tu relâches tes bras, tu te laisses flotter. Maintenant, tu prends la position qu'on a vue, bien groupée. Tu laisses les genoux remonter à la poitrine, les talons collés aux fesses. Il faut que la pointe des skis sorte de l'eau. Mets les plus devant, on les sort encore un peu plus. On reste accroupi, 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 accroupi. Et debout, tranquillement. Ouais, tends tes bras. Ben voilà. T'asseoir, les fesses dans l'eau et debout. Encore une fois, on s'assoit et debout. Allez, rassieds-toi, accroupi. Bravo. Les gens s'imaginent toujours que c'est compliqué. Alors que c'est comme tout et n'importe quel sport, si t'as les bons conseils et la bonne technique, et ben en fait c'est pas plus difficile qu'autre chose.
Marie-Noël Sourty, je suis présidente du club de ski nautique de Château-Gontier et de wakeboard. Il y a une pancarte, l'association créée en 1975, donc ça fait un petit moment qu'on est sur la rivière la Mayenne et qu'on pratique du ski nautique.
C'est vrai qu'on peut se dire le ski nautique sur la Mayenne, ça paraît pas évident. Comment est née cette idée et ce club ?
Bah, évident, si, puisque en fait l'eau n'est pas en mouvement, elle est plutôt très calme. C'est plus facile et cela permet de s'entraîner, parce que la différence par rapport aux clubs qui sont en bord de mer, en fait, nous, notre but, c'est toujours de progresser, d'être meilleur, d'être beau à voir. Et d'ailleurs, on est école de ski puisqu'on a un moniteur brevet d'État tous les ans. On a un bateau du club et on fait des stages pour les jeunes toute la saison. À partir de 3, on fait un stage et on a aussi un parcours sur l'eau qui s'appelle un parcours de slalom. Et ce sont des bouées qu'il faut passer de chaque côté. Alors, le slalom fait 269 mètres de long. Il y a 6 bouées à passer. Vitesse du bateau en fonction de l'âge, en fonction de la progression. Et après, la difficulté, c'est qu'on raccourcit la corde.
Toute l'année, il y a des jeunes et des moins jeunes qui s'entraînent justement aussi pour les compétitions ou...
Alors, on est un club assez particulier parce qu'on a énormément de jeunes. Donc, j'ai une politique de faire venir les jeunes au club, de les entraîner et d'avoir énormément de jeunes. Et d'ailleurs, je passe beaucoup de conventions avec les communes pour que l'été, avec les centres aérés et tout ça, eh bien, on fasse découvrir le ski nautique au plus grand nombre d'enfants qu'on peut avoir.
Si vous le proposez même à tout le monde, même peut-être aux plus petits, c'est que c'est une discipline finalement assez accessible.
C'est complètement accessible parce qu'on peut en faire... On a 3 types de bateaux. On a un bateau pour les tout-petits à partir de 3 ans. Après, on a un autre bateau qui fait des 9 à 12. Et après, on passe sur le plus gros, quoi.
Vous aviez aussi du matériel adapté pour les personnes à mobilité réduite ?
Oui, on a 2 skis adaptés et on fait des stages ou des journées handi tous les ans. On en fait 2 ou 3. Et puis on fait aussi des journées pour les femmes. C'est un sport très 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 complet pour une femme et qui permet dans notre organisation de ne pas nous prendre trop de temps, mais d'être un sport super complet. La première fois que vous allez en faire, vous allez découvrir que vous avez des muscles, vous ne pensez pas que vous en aviez. Vraiment, on a fait travailler les épaules, le tronc, les jambes, tout en même temps.
Vous en faites déjà depuis un certain nombre d'années, qu'est-ce qui vous plaît justement autant ici ?
C'est un sport complet, c'est un sport quand on glisse sur l'eau, on a l'impression on est ailleurs, quoi. C'est la liberté de glisser. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Comment je suis venue ? C'est mon père qui avait un bateau et puis qui m'a mis à l'eau, des skis, et vas-y. On a moins de jeunes qui ont le but d'aller jusqu'à la compétition, on en a moins. Mais on a tellement de jeunes qui ont envie de découvrir toutes les disciplines. Ça, c'est très bien parce qu'on fait du ski, du slalom, on fait des figures, on fait du wake, on fait du wake skate. Et tout ça, voilà, ils ont envie de tout découvrir. Mais ce qui est bien, parce que l'équilibre, c'est énorme. Ça donne un équilibre. J'ai oublié ça pour une femme. Et pour garder la forme, on a de l'équilibre.
Il y en a justement dans le club qui se débrouillent bien en compétition ?
Oui. Enfin, on en a eu beaucoup, mais... Dans le club, en ce moment, on entraîne depuis 2 ans un jeune pour les championnats de France de wakeboard. Donc, l'année dernière, il avait fait 2e. Et puis autrement, en ski, on a des petits piliers qui continuent à faire de la compétition nationale, voire internationale.
Et donc là, ici, l'été, j'imagine qu'il y a aussi pas mal de touristes qui viennent vous voir ?
Oui, qui passent. Alors nous, on a de la chance, on est sur le circuit de la vélo française. Donc c'est vrai qu'on a des gens qui s'arrêtent. Les gens viennent ou réservent 2-3 jours. Mais vu que c'est du bateau, il n'y a jamais une très grosse affluence. C'est différent des parcs. On se pose, on prend un transat, on regarde les autres et puis on attend son tour. Donc c'est pas mal.
Tout est fait sur place pour en profiter. Un coin barbecue, un beach volley, une table de ping-pong ou encore un terrain de pétanque. À l'année, le club compte une 100aine de licenciés et même des sections sportives en classe de 6e et 5e au collège Saint-Michel. Passionné d'histoire, de musique, de sport ou même d'étroit, cette émission, vous l'avez comprise, était faite pour vous. Vous pouvez toujours réécouter les émissions précédentes sur notre site l'autreradio.fr. Vous l'avez compris, pour aujourd'hui, l'estival du local, c'est fini. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Je vous souhaite une très belle semaine, de bonnes vacances si vous en avez bien sûr, et à jeudi prochain.
C'est l'été sur l'autre radio.